Chers frères et sœurs, vous avez reçu une feuille d'annonce en entrant dans ce temple. Et il y a effectivement des petites annonces avec des propositions de vente, de location. Il manque un avis de recherche. Et c'est cet avis de recherche que j'aimerais vous lancer ce matin. Car il me semble que nous avons perdu la grâce. Et c'est la grâce qu'il nous faudrait rechercher et retrouver. Je veux dire par là que nous n'entendons plus parler de la grâce. Si ce n'est, il y a quelques mois, de façon un peu malheureuse, dans la bouche de l'archevêque de Lyon qui constatait que les faits criminels concernant un prêtre de son diocèse étaient prescrits grâce à Dieu. Bref, qu'avons-nous fait de la grâce? Comment se fait-il que nous n'en parlions plus? Plus personne ne parle de la grâce, que ce soit dans notre société ou dans notre Église. C'est un peu comme si notre religion était devenue une morale d'excellence, mais que la grâce, elle, n'avait plus grand-chose à faire dans notre vie quotidienne. Comme si nous étions désormais convaincus que la vie est une affaire trop sérieuse pour que la grâce ait quelque chose à voir dans cette affaire. Comme si la grâce était inutile, inopérante, inefficace. Peut-être juste un bon sujet pour enquiquiner les étudiants en théologie. Alors, la question se pose de savoir où est passée la grâce. Où est passée la grâce qui n'est pas simplement la grande affaire du protestantisme, mais un attribut fondamental de Dieu tel qu'en parlent les textes bibliques. Est-ce la grâce qui structure notre société, notre monde? C'est à croire que notre société s'abstient de toute forme de grâce. Alors on m'objectera qu'il faut être un peu sérieux tout de même et que lorsqu'on voit la complexité du monde, les grandes puissances qui s'affrontent, les mégastructures, les entreprises multinationales, soyons un peu sérieux, la grâce n'a rien à faire là-dedans. Ah bon? Ne serait-ce pas, au contraire, la vocation chrétienne que de permettre à la grâce de régir la vie personnelle, la vie des individus, et par conséquent, notre vie sociale? N'est-ce pas justement de grâce dont il est question, lorsque les deux grands empires babyloniens et égyptiens s'affrontent, avec au milieu le petit poussé, le petit David, la petite Jérusalem, qui n'est qu'un petit postillon sur la carte des relations internationales du VIe siècle avant notre ère. Comment se fait-il que nous ne prenions pas la grâce un peu plus au sérieux? Au moins nous, petit reste qui pourrions nous découvrir une vocation d'avocat de la grâce. Et non pas seulement la grâce au sens de la beauté, dont Dostoïevski disait qu'elle sauverait le monde, mais bien la grâce divine, ce don miséricordieux offert par Dieu. Et c'est ce que j'aimerais vous présenter ce matin. Faire une sorte de plaidoyer pour la grâce aujourd'hui, dans notre vie quotidienne. Et vous parlez de cela au regard du texte d'Ésaïe, en se demandant ce qu'est et ce que serait une société sans grâce. Et en fait, je ne vais pas me le demander très longtemps. Je vais vous dire d'emblée qu'une société sans grâce, c'est une société inhumaine. C'est une société invivable. Et j'aimerais vous montrer cela à travers trois domaines abordés par le prophète Ésaïe. La justice, la guérison et l'éducation. Ce texte commence par une affirmation qui est assez commune dans nos textes bibliques. L'Éternel est un Dieu juste. La question qui se pose, c'est comment cette affirmation que l'Éternel est un Dieu juste peut apporter quelque chose à notre compréhension de la justice humaine. Alors, bien sûr, je vous invite à venir ici le lundi 5 octobre à 18h pour entendre le magistrat Antoine Garapon, qui s'interrogera sur le jugement dernier dans le procès contemporain. Mais nous pouvons d'ores et déjà nous préparer à ce sujet en nous demandant comment cette thématique de la justice peut être utilement informée par une réflexion théologique. Lorsque nous écoutons les gens parler de la justice, et nous-mêmes, lorsque nous parlons de la justice, nous découvrons qu'il y a grosso modo deux écoles. Deux écoles que je qualifierais de deux termes, la justice légaliste et la justice contextuelle. La justice légaliste considère qu'il faut appliquer la loi de manière automatique aux différentes situations qui sont abordées par les tribunaux. Cela revient à faire conformer les différentes situations au cas prévu par la loi et à appliquer les sanctions prévues de manière mécanique. La justice contextuelle, de son côté, s'efforce d'appréhender chaque situation pour elle-même, avec ses spécificités pour les apprécier, pour apprécier le contexte, pour apprécier la personnalité des protagonistes et mettre en perspective les différents éléments. Je dirais que la justice automatique est à l'image des radars automatiques qui longent les routes ou qui veillent au grain à proximité des feux tricolores. Du moment que vous avez dépassé la limite fixée, la limite de vitesse autorisée, ou que vous avez franchi le feu rouge, vous êtes verbalisé. Et soit dit en passant, double peine. Non seulement vous devez donner de l'argent, et en plus vous perdez des points sur votre permis de conduire. Vous pouvez trouver cela juste. Et vous pouvez considérer qu'il n'y a rien à redire, parce que dans les deux cas, il y a eu infraction à la loi, des sanctions sont prévues, il n'y a donc pas à tergiverser. Cela est juste. On applique la loi. Qu'y a-t-il à ajouter à cela? Rien à reprocher, a priori. C'est la fameuse justice aveugle, celle qui est représentée par une femme tenant une balance et un bandeau sur les yeux, qui ne se préoccupe pas du contexte. C'est mécanique. C'est implacable. J'ajouterai à titre personnel que c'est froid et inhumain. D'un point de vue théologique en tout cas. Et je vais essayer de m'en expliquer. Tout d'abord, j'aimerais vous rendre attentif au fait que la justice n'est pas forcément destinée à réprimer ou à sanctionner des fautes. La justice, d'un point de vue théologique, est destiné à remettre tout le monde dans le sens d'un monde plus vivable, plus sûr, et qui offre de plus grandes libertés à chacun, toutes choses qui correspondent à la volonté divine telle que la Bible la révèle. Pour faire simple, on pourrait dire que toute faute, tout crime commis crée du désordre dans le monde, et que la justice s'évertue à remettre un peu d'ordre, à réduire la part de chaos qui a été créée par la faute ou par le crime. Et c'est la raison pour laquelle, d'un point de vue théologique, la justice légaliste est problématique. Si c'est le garde des Sceaux qui commence à se plaindre, je suis prêt à débattre avec lui. Mais je crois qu'il serait assez d'accord avec moi. Je reprends l'exemple des radars automatiques. Cette justice légaliste des radars automatiques est problématique, car la justice légaliste entrave la vie en bridant la responsabilité individuelle. Non seulement cette justice légaliste empêche d'adapter notre vitesse à l'état de la circulation, elle empêche de rouler plus vite que la vitesse autorisée, quand le contexte permettrait de le faire en toute sécurité, parce qu'on est seul sur la route, que la route est sèche, que notre voiture est en bon état. Et au fond, nous savons très bien que nous pouvons rouler à plus de 130 km/h sur les autoroutes. Car si c'était dangereux, la police nationale elle-même, les autorités politiques elles-mêmes ne rouleraient pas à plus de 130 km/h. Et on mettrait des dispositifs pour empêcher de rouler à plus de 130 km/h. Mais n'entendez pas dans mes propos une sorte de révolte contre les limitations de vitesse. Juste vous rendre attentif au fait que la justice légaliste pose de sérieux problèmes. Donc ça, c'est une façon de brider la responsabilité individuelle qui peut nous sembler, après tout, assez accessoire. Mais pensons maintenant aux radars automatiques, aux feux tricolores. Parce que là, ça devient grave. Peut-être qu'un peu de révolte ne serait pas inutile. Je pense à la rue Paul Rimbaud, c'est la Via Domitienne. Si vous brûlez le feu rouge, vous avez un superbe flash qui éclaire l'arrière de votre véhicule et dans les quelques semaines qui viennent, vous perdez non seulement de l'argent, mais 4 points sur le permis de conduire, ce qui, au demeurant, peut vous priver de permis de conduire s'il ne vous restait plus que 4 points. Il m'en restait un peu plus, heureusement. À ce feu tricolore, voici ce que j'ai vu il y a quelque temps. 3 voitures au feu rouge, bien arrêtées, et derrière, un véhicule de pompiers, gyrophare allumé, toute sirène hurlante, en intervention d'urgence. Pas une voiture n'a avancé, parce que personne ne voulait perdre ni argent, ni points sur son permis. Cette justice légaliste a tout simplement entravé l'action des pompiers, qui se sont retrouvés coincés, et par les temps qui courent, vous savez que quand on est coincé, on est bien coincé ici à Montpellier. Mais ce n'est pas une récrimination autre que il y a des formes de justice qui sont contraires à l'esprit d'une vie. Contre la justice légaliste, qui traduit souvent un désir pervers de condamnation de l'autre, d'où l'instauration de peines planchers pour être sûr que au moins l'infracteur subira cela. Eh bien, contre la justice légaliste, entendons que la théologie, mais la philosophie aussi, je pense au philosophe Paul Ricoeur par exemple, constate qu'il y a quelque chose de paradoxal à vouloir rétablir une justice en diminuant le désordre par un autre désordre. Parce qu'une peine, c'est un mal que l'on ajoute à un mal commis. Il va de soi que la peine de mort, par exemple, est une façon de rajouter encore plus de mal au mal commis. Mais de façon générale, les peines de prison sont une manière de créer du désordre dans le désordre qui vient d'être commis. Et c'est en ce sens que la grâce divine est décisive pour les questions de justice. Non pas la grâce divine au sens de la grâce présidentielle, qui consisterait à appliquer en permanence l'amnistie, mais la grâce en termes de comment se débrouiller pour redonner à chacun une place dans l'histoire du salut. Je le dis de façon théologique. La question qui se pose au prophète Ésaïe est comment ce peuple qui est en train de se jeter dans la gueule du lion va-t-il pouvoir échapper à cette fatalité qu'il a face à lui et comment va-t-il pouvoir retrouver une place de choix? Comment va-t-il pouvoir réintégrer l'histoire du salut? Comment s'efforcer qu'il ne soit pas écrabouillé par le malheur dans lequel il est en train de s'engager? C'est la raison pour laquelle l'histoire biblique, l'histoire du peuple d'Israël, est une longue succession d'alliances renouvelées. À chaque fois que le peuple faute, qu'il pêche, il y a ces paroles prophétiques qui le mettent face à la vérité de la situation, face à ses responsabilités, face à ses manquements et à ses fautes, mais aussi une parole de grâce qui lui ouvre un chemin de restauration, la fameuse justice restauratrice. Notre justice pourrait consister à redire le droit en identifiant la victime, en identifiant l'infracteur, en ne l'exonérant pas des fautes qu'il a commises, mais en redisant le droit de l'un et le droit de l'autre, pour que l'un et l'autre puissent avoir encore un avenir. L'avenir de l'un et l'avenir de l'autre passe d'ailleurs par le second point que je vais maintenant aborder, la question de la guérison. Après la justice, le deuxième aspect sur lequel le texte biblique tient notre attention au sujet de la grâce, c'est la guérison. Le texte finit par le bandage de la plaie et par la guérison des plaies, c'est le verset 26. D'autres aspects sont également en rapport avec la guérison, la fin des pleurs au verset 19, le fait de rassasier le peuple qui est dans la détresse et la pénurie au verset 20. Le thème de la guérison est intéressant parce qu'il permet de penser la question du soin de l'autre. Et il y a là encore deux écoles. Quand nous pensons la solidarité, lorsque nous pensons à la question de l'entraide, il y a deux écoles. Il y a l'école des gens solidaires qui donnent autour d'eux en fonction des demandes qui leur sont faites. Ils donnent des aliments à celui qui a faim. Ils donnent des vêtements à celui qui a froid. Ils donnent du savon à celui qui est sale. Je dirais que c'est l'école de l'entretien. On entretient les corps en leur donnant ce qui leur est nécessaire pour éviter le dépérissement et ultimement la mort. Mais d'un point de vue théologique, cela est non seulement insuffisant, mais problématique, comme l'est la justice légaliste. Et je m'explique là aussi. Entretenir les corps, il semble que cela est notre mission en tant que chrétiens, qui devons être solidaires et fraternels, comme l'a été le bon samaritain sur le chemin qui menait de Jéricho à Jérusalem. Mais quand on y pense, l'entretien des corps, le principe même de l'entretien, revient à entretenir les situations et par conséquent à laisser les personnes dans les situations où elles se trouvent. Et d'un point de vue théologique, comme nous irons attentifs le prophète Ésaïe, ce n'est pas l'entretien que nous devons viser, mais la guérison. Et ça, c'est une question fondamentale pour nous lorsque nous pensons la diaconie, l'entraide. Il s'agit de mettre fin aux pleurs de Jérusalem. Il s'agit bien sûr de donner ce qui est nécessaire pour la survie du moment, mais il s'agit de panser les plaies pour atteindre la guérison, c'est-à-dire pour que les personnes atteignent une situation d'autonomie, qu'elles n'aient plus besoin de soins, que leur malheur ait atteint leur terme, et disons-le clairement, qu'elles n'aient plus besoin de nous. La grâce, c'est la miséricorde divine qui vise la liberté des personnes, ces personnes qui manquent de beaucoup de choses ou de tout, et que nous maintenons si souvent dans une sorte de dépendance envers nos bons soins, en ne prodiguant pas tout ce qu'il aurait nécessaire pour s'en sortir vraiment et définitivement. On peut le dire sur un mode un peu tranquille entre nous, et un peu polémique aussi. Mais si on prend une action que nous menons, nous, protestants de Montpellier, Babel Café, le dimanche matin, donner des petits déjeuners aux gens qui sont nécessiteux. Comment se réjouir qu'après plusieurs années d'existence de cette action tout à fait louable, on ait encore 300 personnes chaque matin qui sont les mêmes qu'il y a plusieurs années, pour la plupart. On peut se dire quelle belle action nous faisons. On peut aussi considérer que c'est un échec patent, car cela signifie que nous laissons les gens dans la situation où nous les avons trouvés au départ et que nous les entretenons au lieu de les guérir. On en discutera après si vous voulez, mais si quelqu'un veut se lever et contester, on peut le faire. La grâce, c'est la miséricorde divine qui vise la liberté et donc l'autonomie. Il y a une entraide au petit pied qui consiste à distribuer des biens de consommation. Et il y a aussi, à l'opposé, une entraide marquée par la grâce qui consiste à attirer les personnes en difficulté vers une situation de plus grande liberté, comme cela était envisageable pour le peuple hébreu, qui, s'il décidait de ne pas s'en remettre à l'Égypte, incapable de libérer le peuple, mais au contraire, tout juste bon à le placer dans une situation de servitude, eh bien, cette grâce pouvait lui permettre d'accéder à une plus grande autonomie et à ne pas se sentir dépendant d'un empire pour pouvoir résister à la force de l'histoire. La grâce vise la fin de l'angoisse. La joie véritable dont parlera Jésus au moment de quitter ses disciples, lors du dernier repas dans l'évangile de Jean, lorsqu'il leur fait comprendre que son départ a un aspect positif, à savoir qu'ils ne seront plus dépendants de lui et qu'ils vont pouvoir accéder à leur pleine liberté. Ils ne seront plus sous la tutelle de Jésus, ils pourront faire face en pleine responsabilité à leur histoire personnelle. La grâce en matière d'entraide, c'est viser la liberté des personnes et non pas le maintien en vie de leur être biologique. La grâce n'est donc pas une histoire d'entretien. Notre vocation n'est pas d'entretenir les personnes, comme elle n'est pas d'ailleurs d'entretenir les institutions. Notre vocation est de viser les guérisons, sachant que nous n'y parviendrons pas forcément, parce que le processus de guérison est en fait un processus infini. Vous savez, c'est ce que disait Théodore Monod. Il disait, lui qui était naturaliste, qui avait observé le vivant, il disait « Nous avons enfin trouvé le chaînon manquant entre le singe et l'homme. » C'est nous. Nous sommes dans un processus d'humanisation, un processus de guérison. Et c'est cela qu'il faut viser. Car si nous ne visons pas les étoiles, nous n'atteindrons jamais la lune. Au moins, en visant la guérison, on permet aux personnes de s'engager dans un chemin de libération, de plus grande autonomie, qui leur permet de regagner en humanité. Et dans le prolongement de cette manière d'envisager l'entraide, il y a l'éducation, le troisième point, qui est abordé par Ésaïe au verset 20, et qui est un prolongement de la question du pain et de l'eau. Les choses s'enchaînent. Pas de justice sans guérison, et pas de guérison sans éducation, parce que pas de liberté sans éducation. Ésaïe dit que ceux qui instruisent ne seront plus cachés. Les yeux des personnes au bénéfice de la grâce verront ceux qui instruisent. Et je précise que le verbe « instruire » en hébreu, c'est le verbe « yara », c'est ce mot qui va donner la Torah. La Torah, les cinq premiers livres de la Bible, le fondement de la foi juive, le cœur même auquel nos textes bibliques se réfèrent constamment. La Torah, c'est l'instruction au sens des paroles divines qui nous permettent d'accéder à la grâce. Avoir connaissance de ce qu'est la grâce, pour l'injecter dans notre vie quotidienne. Là encore, en matière d'éducation, il y a deux écoles. Ça sera donc une prédication finalement très dialectique ce dimanche matin. Il y a l'école qui consiste à instruire au sens de dispenser un savoir, de donner des informations à des élèves. C'est l'école de l'information. On donne des informations aux élèves comme on remplit une base de données en informatique, comme on remplit un vase, pour reprendre l'image du philosophe Montaigne. Et il y a une autre école, celle qui consiste à allumer un feu pour poursuivre l'image de Montaigne. C'est l'école où la grâce cherche à faire accéder les personnes au degré d'humanité espéré par Dieu. Dans ce domaine, la grâce éduque. Elle éduque en aidant les personnes à acquérir les moyens de faire quelque chose d'utile des différentes données qu'ils reçoivent, de toutes les informations qu'ils collectent. La grâce vise, là aussi, la liberté des personnes, cette fois à l'égard des informations, qui n'ont pas toutes la même valeur, loin s'en faut. Et que l'on songe non seulement aux jeunes générations dont on dit qu'elles sont toujours les plus fragiles face à l'information, mais aussi à tous les adultes qui se retrouve submergé par un flot continu d'informations. L'éducation a ceci de salutaire qu'elle forge un esprit critique chez les personnes. Alors que l'information ne s'intéresse qu'aux données. En soi, une information n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur si on ne connaît pas sa source, si on ne l'a pas confrontée à d'autres informations sur le même sujet, et si on ne l'a pas testée sur le réel. Cela, deuxième publicité gratuite, Ariane Chemin, grand reporter au Monde, nous en parlera le 23 novembre, toujours à 18h30. Mais nous pouvons d'ores et déjà y penser un peu quand même. Ce qui me frappe, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a presque une majorité de personnes qui ne savent plus très bien distinguer une information issue d'une société de journalistes ou issue d'un site parodique. Une information destinée à faire connaître un fait réel et une information destinée à distraire. Les deux ont leur justification. Il faut se réjouir de tous les sites parodiques, mais il ne faut pas les prendre pour argent comptant. Il ne faut pas les prendre pour la vérité qui dit ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Le drame est bien sûr que de nombreuses personnes, y compris parmi ceux qui ont des responsabilités pourtant, dans notre société, ne savent pas toujours faire la part des choses entre information réelle et divertissement, ou même parfois mensonges délibérés. Pour reprendre la métaphore du prophète Ésaïe, ils tiennent pour pur l'argent qui recouvre le réel et l'or dont il est plaqué. Pourvu que l'information soit croustillante, on estime qu'elle est juste, qu'elle est bonne, qu'elle est vraie. Pourvu que ça puisse faire du buzz, c'est bon à prendre. Pourvu qu'elle soit partageable, on la communique. Vous savez que le savoir est un pouvoir. Les gens mieux informés ont toujours un coup d'avance sur les autres. Mais les gens éduqués ont un avantage encore supérieur, car ils savent utiliser les informations et ils savent les mettre à profit, soit en jetant celles qui sont erronées, soit en utilisant celles qui sont bonnes à bon escient. Ainsi, un élève qui sait calculer une intégrale aura un avantage sur celui qui ne le sait pas, en particulier lors du contrôle de mathématiques. Mais celui qui sait à quoi sert une intégrale aura un avantage supérieur lorsqu'il voudra savoir combien de litres de peinture sont nécessaires pour peindre sa palissade circulaire. Et qu'il n'en prenne pas pour peindre non pas la surface, mais le volume. L'éducation, lorsqu'elle est animée par la grâce, vise l'autonomie des personnes en construisant leur libre examen, leur capacité de jugement. C'est par l'éducation, le fait d'être conduit hors d'eux et d'oukéré, hors du territoire que l'on connaît déjà, hors de nos certitudes, hors de notre quant à soi, que nous pouvons sortir de la situation initiale et grandir, nous épanouir. Et c'est ainsi qu'on est libéré d'une situation stagnante qui nous cloue sur place. Et comme je le répète souvent, ce qui ne bouge pas, c'est ce qui est mort. La grâce est justement un appel à la vie nomade. Voici le chemin, marchez-y, dit le prophète Ésaïe. C'est un verset qui suit le verset sur l'éducation, qui ne vise pas à maintenir les gens dans leur état, c'est-à-dire dans leur ignorance et dans leur incompréhension du monde. Et je dirais avec une sorte d'anachronisme que quelques siècles en avance, le prophète Ésaïe annonce le siècle des Lumières, l'Aufklärung, où même la nuit devient lumineuse, où la lune éclaire comme le soleil et le soleil éclaire comme une semaine de soleil, une intensification de la lumière qui permet de faire reculer l'obscurantisme. Une métaphore qui parle de toutes ces situations où les gens ne sont ni instruits ni éduqués. Ainsi, La vie peut être baignée de cette grâce lumineuse qui donne accès à tous les aspects de la vie. L'Aufklärung, c'est le fait qu'il n'y a plus de sujets tabous sur lesquels nous ne pourrions pas exercer notre libre examen, notre faculté de jugement. Cela signifie qu'il n'y a pas des domaines réservés à une aristocratie et que nous serions condamnés à ne rien savoir, à ne rien comprendre et à tout subir. Nous avons le droit de nous intéresser à tout, et je précise que c'est aussi le siècle de la spécialisation, de l'expertise, et que la parole des experts, qui s'appuie sur une démarche scientifique, a peut-être quand même une valeur supérieure à celles et ceux qui se contentent des conversations de comptoir. Une société gracieuse. Une société de confiance, c'est bien, mais la société gracieuse. Je crois qu'elle n'est pas simplement possible. Elle n'est pas simplement recommandable. Elle est impérative. Sans quoi, c'est une société insupportable, invivable, où nous nous faisons broyer en permanence par des mécaniques qui n'ont plus rien d'humain. Injecter la grâce divine dans nos affaires quotidiennes, ce n'est pas simplement possible dans des domaines aussi variés que la justice, l'entraide, l'éducation. J'ajouterai le monde professionnel, y compris dans l'économie. La guerre pourrait être interrogée au regard de la grâce. Parce que la grâce débloque les situations. Elle encourage la créativité. Elle encourage les prises d'initiative. Elle encourage la responsabilité. Toutes choses qui nous rendent un peu plus humains et dont nous avons fondamentalement besoin si nous voulons une société d'êtres libres. La vérité est que nous pouvons faire le choix d'une société fasciste, totalitariste, où il n'y a plus de questions à se poser, et nous suivons une doxa, et nous nous enfermons dans une sorte de repli où nous sommes bien tranquilles. Mais ça, ce n'est pas le choix que font les rédacteurs bibliques. Ce n'est pas la perspective de la foi biblique. La grâce intervient pour changer les choses. Elle change les situations, elle change les personnes et elle crée un être bien plus humain qu'une société marquée par le légalisme, l'entretien et l'information. Ces trois manières de faire société et bien d'autres qui font obstacle à la grâce, et c'est la raison pour laquelle le prophète Ésaïe commence par dire que l'Éternel attend pour faire grâce. Peut-être que vous avez un peu tiqué sur ce premier verset. L'Éternel attend pour faire grâce. Mais qu'est-ce qu'il attend au juste? Est-ce que ce serait ce Dieu pervers qui attend que nous cassions la figure pour dire « Ah, vous voyez, vous avez besoin de moi ». Je le traduirai autrement. L'Éternel patiente. L'Éternel patiente parce que nous prenons une sorte de malin plaisir à nous enquister dans des situations impossibles. L'Éternel patiente jusqu'à ce que nous cessions de nous enfermer dans une société mécanisée, qui entretient les moins éduqués dans une situation où ils végètent. L'Éternel patiente jusqu'à ce que nous nous décidions à accepter enfin au moins un peu de grâce. L'autre nom de la compassion divine, qui nous propulse dans une vie qui ne badine pas avec notre liberté, ni avec notre irréductible dignité. Amen.